Chapitre 192. Visite domiciliaire. La princesse, précédant Raoul, le conduisit à travers la cour vers le corps de bâtiment qu'habitait la Vallière, et, montant l'escalier qu'avait monté Raoul le matin même, elle s'arrêta à la porte de la chambre où le jeune homme, à son tour, avait été si étrangement reçu par Montalais. Le moment était bien choisi pour accomplir le projet conçu par Madame Henriette. Le château était vide. Le roi, les courtisans et les dames étaient partis pour Saint-Germain. Madame Henriette, seule, sachant le retour de Bragelonne et pensant au parti qu'elle avait à tirer de ce retour, avait prétexté une indisposition et était restée. Madame était donc sûre de trouver vide la chambre de la Vallière et l'appartement de Saint-Aignan. Elle tira une double clé de sa poche et ouvrit la porte de sa demoiselle d'honneur. Le regard de Bragelonne plongea dans cette chambre qu'il reconnut, et l'impression que lui fit la vue de cette chambre fut un des premiers supplices qu'il attendait. La princesse le regarda, et son œil exercé put voir ce qui se passait dans le cœur du jeune homme. « Vous m'avez demandé des preuves, » dit-elle, « ne soyez donc pas surpris si je vous en donne. Maintenant, si vous ne vous croyez pas le courage de les supporter, il en est temps encore, retirons-nous. »« Merci, madame, » dit Bragelonne, « mais je suis venu pour être convaincu. Vous avez promis de me convaincre, convainquez-moi. »« Entrez donc, » dit madame, « et refermez la porte derrière vous. » Bragelonne obéit, et se retournant vers la princesse qui l'interrogea du regard. « Vous savez où vous êtes ?» demanda madame Henriette. « Mais tout me porte à croire, madame, que je suis dans la chambre de mademoiselle de la Vallière. »« Vous y êtes. » »« Mais je ferai observer à votre Altesse royale que cette chambre est une chambre et n'est pas une preuve. » « Attendez !» La princesse s'achemina vers le pied du lit, replia le paravent et, se baissant vers le parquet, « Tenez, dit-elle, baissez-vous et levez vous-même cette trappe. »« Cette trappe ? » s'écria Raoul avec surprise, car les mots de D'Artagnan commençaient à lui revenir en mémoire et il se souvenait que D'Artagnan avait vaguement prononcé ce mot. Et Raoul chercha des yeux, mais inutilement, une fente qui indiqua une ouverture ou un anneau qui aidât à soulever une portion quelconque du plancher. « Ah, c'est vrai !» dit en riant Madame Henriette. « J'oubliais le ressort caché. La quatrième feuille du parquet, appuyez sur l'endroit où le bois fait un nœud. Voilà l'instruction. Appuyez vous-même, vicomte. Appuyez, c'est ici. » Raoul, pâle comme un mort, appuya le pouce sur l'endroit indiqué et, en effet, à l'instant même, le ressort joua et la trappe se souleva d'elle-même. « C'est très ingénieux, » dit la princesse, « et l'on voit que l'architecte a prévu que ce serait une petite main qui aurait à utiliser ce ressort. Voyez comme cette trappe s'ouvre toute seule. »« Un escalier ?» s'écria Raoul. « Oui, et très élégant même, » dit madame Henriette. « Voyez, vicomte, cet escalier a une rampe destinée à garantir des chutes les délicates personnes qui se hasarderaient à le descendre, ce qui fait que je m'y risque. Allons, suivez-moi, vicomte, suivez-moi. » « Mais avant de vous suivre, madame, où conduit cet escalier ?»« Ah, c'est vrai, j'oubliais de vous le dire. » « J'écoute, madame, » dit Raoul, respirant à peine. « Vous savez peut-être que monsieur de Saint-Aignan demeurait autrefois presque porte-à-porte avec le roi. »« Oui, madame, je le sais. Et c'est ainsi qu'avant mon départ, et plus d'une fois, j'ai eu l'honneur de le visiter à son ancien logement. »« Eh bien, il a obtenu du roi de changer ce commode et bel appartement que vous lui connaissiez contre les deux petites chambres auxquelles mène cet escalier. » Et qui forment un logement deux fois plus petit et dix fois plus éloigné de celui du roi, dont le voisinage, cependant, n'est point dédaigné, en général, par messieurs de la cour. « Fort bien, madame, » reprit Raoul. « mais continuez, je vous prie, car je ne comprends point encore. » « Eh bien, il s'est trouvé, par hasard, continua la princesse, que ce logement de M. de Saint-Aignan est situé au-dessous de ceux de mes filles et particulièrement au-dessous de celui de la Vallière. Mais dans quel but cette trappe et cet escalier ? Dame, je l'ignore. Voulez-vous que nous descendions chez M. de Saint-Aignan ? Peut-être y trouverons-nous l'explication de l'énigme. » Et madame donna l'exemple en descendant elle-même. Raoul la suivit en soupirant. Chaque marche qui craquait sous les pieds de Bragelonne le faisait pénétrer d'un pas dans cet appartement mystérieux qui renfermait encore les soupirs de la Vallière et les plus suaves parfums de son corps. Bragelonne reconnut, en absorbant l'air par ses haletantes aspirations, que la jeune fille avait dû passer par là. Puis, après ces émanations, preuves invisibles mais certaines, vinrent les fleurs qu'elle aimait, les livres qu'elle avait choisis. Raoul eût-il conservé un seul doute qu'il l'eût perdu à cette secrète harmonie des goûts et des alliances de l'esprit avec l'usage des objets qui accompagnent la vie. La Vallière était, pour Bragelonne, en vivante présence dans les meubles, dans le choix des étoffes, dans les reflets même du parquet. Muet et écrasé, il n'avait plus rien à apprendre et ne suivait plus son impitoyable conductrice que comme le patient qui suit le bourreau. Madame, cruelle comme une femme délicate et nerveuse, ne lui faisait grâce d'aucun détail. Mais, il faut le dire, malgré l'espèce d'apathie dans laquelle il était tombé, aucun de ces détails, fût-il resté seul, n'eût échappé à Raoul. Le bonheur de la femme qu'il aime, quand ce bonheur lui vient d'un rival, est une torture pour un jaloux. Mais pour un jaloux tel que l'était Raoul, pour ce cœur qui, pour la première fois, s'imprégnait de fiel, le bonheur de Louise, c'était une mort ignominieuse, la mort du corps et de l'âme. Il devina tout. Les mains qui s'étaient serrées, les visages rapprochés qui s'étaient mariés en face des miroirs, sorte de serment si doux pour les amants qui se voient deux fois, afin de mieux graver le tableau dans leurs souvenirs. Il devina le baiser invisible sous les épaisses portières retombant, délivrés de leurs embrasses. Il traduit en fiévreuse douleur l'éloquence des lits de repos enfouis dans leur ombre. Ce luxe, cette recherche pleine d'enivrement, ce soin minutieux d'épargner tout déplaisir à l'objet aimé ou de lui causer une gracieuse surprise, cette puissance de l'amour multipliée par la puissance royale frappa Raoul d'un coup mortel. Oh, s'il est un adoucissement aux poignantes douleurs de la jalousie, c'est l'infériorité de l'homme qu'on vous préfère. Tandis qu'au contraire, s'il est un enfer dans l'enfer, une torture sans nom dans la langue, c'est la toute-puissance d'un dieu mise à la disposition d'un rival, avec la jeunesse, la beauté, la grâce. Dans ces moments-là, Dieu lui-même semble avoir pris parti contre l'amant dédaigné. Une dernière douleur était réservée au pauvre Raoul. Madame Henriette souleva un rideau de soie, et derrière le rideau, il aperçut le portrait de la Vallière. Non seulement le portrait de la Vallière, mais de la Vallière jeune, belle, joyeuse, aspirant la vie par tous les pores, parce qu'à 18 ans, la vie, c'est l'amour. « Louise !» murmura Bragelonne. « Louise, c'est donc vrai ! Oh, tu ne m'as jamais aimée, car jamais tu ne m'as regardée ainsi. » Et il lui sembla que son cœur venait d'être tordu dans sa poitrine. Madame Henriette le regardait, presque envieuse de cette douleur, quoiqu'elle sût bien n'avoir rien à envier, et qu'elle était aimée de Guiche comme la Vallière était aimée de Raoul. Raoul surprit ce regard de Madame Henriette. « Oh, pardon, pardon, dit-il, je devrais être plus maître de moi, je le sais, me trouvant en face de vous, madame. Mais puisse le Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, ne jamais vous frapper du coup qui m'atteint en ce moment, car vous êtes femme et sans doute vous ne pourriez pas supporter une pareille douleur. Pardonnez-moi, je ne suis qu'un pauvre gentilhomme, tandis que vous êtes, vous, de la race de ces heureux, de ces tout-puissants, de ces élus. « Monsieur de Bragelonne, répliqua Henriette, un cœur comme le vôtre mérite les soins et les égards d'un cœur de reine. Je suis votre ami, monsieur. Aussi n'ai-je point voulu que toute votre vie soit empoisonnée par la perfidie et souillée par le ridicule. C'est moi qui, plus brave que tous les prétendus amis, j'accepte monsieur de Guiche, vous ai fait revenir de Londres. C'est moi qui vous fournis les preuves douloureuses mais nécessaires qui seront votre guérison si vous êtes un courageux amant et non pas un Amadis pleurard. Ne me remerciez pas, plaignez-moi même, et ne servez pas moins bien le roi. » Raoul sourit avec amertume. « Ah, c'est vrai, dit-il, j'oubliais ceci. Le roi est mon maître. Il y va de votre liberté, il y va de votre vie. » Un regard clair et pénétrant de Raoul apprit à Madame Henriette qu'elle se trompait et que son dernier argument n'était pas de ceux qui touchassent ce jeune homme. « Prenez garde, monsieur de Bragelonne, dit-elle, mais en ne pesant pas toutes vos actions, vous jetteriez dans la colère un prince disposé à s'emporter hors des limites de la raison. Vous jetteriez dans la douleur vos amis et votre famille. Inclinez-vous, soumettez-vous, guérissez-vous. « Merci, madame, dit-il. J'apprécie le conseil que votre Altesse me donne et je tâcherai de le suivre. Mais un dernier mot, je vous prie. Dites, est-ce une indiscrétion que de vous demander le secret de cet escalier, de cette trappe, de ce portrait, secret que vous avez découvert? Oh, rien de plus simple. J'ai pour cause de surveillance le double des clés de mes filles. Il m'a paru étrange que la Vallière se renfermât si souvent. Il m'a paru étrange que M. de Saint-Aignan changeât de logis. Il m'a paru étrange que le roi vînt voir si quotidiennement M. de Saint-Aignan, si avant que celui-ci fût dans son amitié. Enfin, il m'a paru étrange que tant de choses se fussent faites depuis votre absence, que les habitudes de la cour en étaient changées. Je ne veux pas être joué par le roi, je ne veux pas servir de manteau à ses amours. Car, après la Vallière qui pleure, il aura Montalais qui rit, Tonnet Charente qui chante. Ce n'est pas un rôle digne de moi. J'ai levé les scrupules de mon amitié, j'ai découvert le secret. Je vous blesse. Encore une fois, excusez-moi, mais j'avais un devoir à remplir. C'est fini, vous voilà prévenu. L'orage va venir, garantissez-vous. « Vous concluez quelque chose, cependant, madame, répondit Bragelonne avec fermeté, car vous ne supposez pas que j'accepterai sans rien dire la honte que je subis et la trahison qu'on me fait. Vous prendrez à ce sujet le parti qui vous conviendra, monsieur Raoul. Seulement, ne dites point la source d'où vous tenez la vérité. Voilà tout ce que je vous demande. Voilà le seul prix que j'exige du service que je vous ai rendu. » « Ne craignez rien, madame, » dit Bragelonne avec un sourire amer. J'ai, moi, gagné le serrurier que les amants avaient mis dans leurs intérêts. Vous pouvez fort bien avoir fait comme moi, n'est-ce pas ? Oui, madame, votre Altesse royale ne me donne aucun conseil et ne m'impose aucune réserve que celle de ne pas la compromettre. Pas d'autre. Je vais donc supplier votre Altesse royale de m'accorder une minute de séjour ici. Sans moi ?
Oh non, madame, peu importe. Ce que j'ai à faire, je puis le faire devant vous.
Je vous demande une minute pour écrire un mot à quelqu'un. C'est hasardeux, monsieur de Bragelonne. Prenez garde.
Personne ne peut savoir si votre Altesse royale m'a fait l'honneur de me conduire ici. D'ailleurs, je signe la lettre que j'écris.
« Faites, monsieur !» Raoul avait déjà tiré ses tablettes et tracé rapidement ses mots sur une feuille blanche. « Monsieur le comte, ne vous étonnez pas de trouver ici ce papier signé de moi avant qu'un de mes amis, que j'enverrai tantôt chez vous, ait eu l'honneur de vous expliquer l'objet de ma visite. Vicomte Raoul de Bragelonne. » Il roula cette feuille, la glissa dans la serrure de la porte qui communiquait à la chambre des deux amants, et, bien assuré que ce papier était tellement visible que Saint-Aignan le devait voir en rentrant, il rejoignit la princesse, arrivée déjà au haut de l'escalier. Sur le palier, ils se séparèrent. Raoul affectant de remercier son Altesse, Henriette plaignant ou faisant semblant de plaindre de tout son cœur le malheureux qu'elle venait de condamner à un aussi horrible supplice. « Oh ! » dit-elle en le voyant s'éloigner, pâle et l'œil injecté de sang. « Oh ! Si j'avais su, j'aurais caché la vérité à ce pauvre jeune homme. »